Nadjar.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Lana Ferradian. Édition spéciale.
Il est 6h. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J, ce vendredi 13 juin 2025, édition spéciale Israël qui attaque l'Iran. On en parle évidemment ce matin. Et oui, merci de nous rejoindre ce matin pour cette édition très spéciale avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et à la réalisation, Greg est avec nous. Bonjour Greg.
Bonjour Ilana, bonjour Eva, bonjour à tous.
On a le plaisir également d'avoir en studio la journaliste israélienne Rina Bassis. Bonjour Rina. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors effectivement, cette nuit, les Israéliens qui ont été réveillés par un message inédit de la défense civile leur demandant de se tenir prêts à toute éventualité puisque ça y est, Israël a frappé des sites nucléaires en Iran. On va en parler avec Pascal Zonshein à Jérusalem. Israël qui se prépare aussi à une riposte iranienne avec des missiles balistiques dans les heures qui viennent. On fera le point avec Rina. Beaucoup d'invités ce matin. On aura le point de vue également de notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Revenir sur les dernières déclarations de Donald Trump, puisque hier, c'était pas du tout certain qu'Israël puisse attaquer l'Iran, si on en croit en tout cas les déclarations des responsables américains. On sera également avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, qui est lui au nord d'Israël, qui n'a pas dormi, qui a fait nuit blanche et qui nous dira un petit peu ce qu'il en pense. Raphaël Jérusalmi aussi tout à l'heure. Et l'avis d'une Iranienne en exil, Mona Jafarian, qui se prépare déjà à réagir, à manifester à Paris aujourd'hui. Elle nous dira ce qu'elle compte faire. Ce sera tout à l'heure à partir de 7h10.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Lana Ferradian. Édition spéciale.
Et oui, édition spéciale, on va faire le point tout à l'heure avec Eva Soto de l'actualité, des dernières actus, mais actu oblige justement, nous sommes en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshein. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Nuit difficile, hein, j'imagine, pour vous et pour des millions d'Israéliens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette nuit, justement, à quelle heure ont commencé ces frappes d'Israël contre l'Iran ?
Alors en fait, tout a commencé vers 3h ce matin, heure locale, c'est-à-dire 2h, heure de Paris. Tous les Israéliens ont reçu sur leur téléphone une pré-alerte du commandement de la défense civile de Tsahal, les avertissant de rester en alerte, de se tenir près d'un abri et d'attendre les consignes. Pourquoi ? Parce qu'au même moment, Tsahal, l'aviation de Tsahal avait lancé une attaque préventive contre l'Iran, une attaque de plusieurs dizaines d'appareils de l'aviation, attaque simultanée contre différentes cibles, y compris d'ailleurs avec des opérations au sol menées par le Mossad. Il s'agissait de frapper simultanément les installations nucléaires de l'Iran, les bases de missiles et également d'éliminer, de procéder à des éliminations ciblées de responsables du régime iranien. Alors très précisément, on parle des gardiens de la révolution qui sont en fait la principale force armée iranienne. Leur commandant Hossein Salemi a été éliminé, cela a été confirmé de sources officielles par les Iraniens. Il y a eu aussi notamment l'élimination de des deux principaux responsables du programme nucléaire iranien. C'est-à-dire que cette opération de Tsahal n'est pas une opération de destruction des installations nucléaires. C'est en fait une première étape qui vise non seulement évidemment à surprendre l'Iran, à frapper à la tête, c'est-à-dire donc toucher ses responsables, ceux qui sont en haut de la chaîne de commandement, ceux qui doivent décider d'une part de la riposte contre Israël et d'autre part de la décision stratégique de passer à la production de l'arme nucléaire. C'est cela qu'Israël a touché en priorité cette nuit. Les frappes de Tsahal continuent à l'heure qu'il est. On en est, je crois, à la cinquième vague d'attaques, des attaques qui touchent les principales villes iraniennes, mais donc avec des cibles extrêmement précises, notamment les installations nucléaires. Côté israélien, donc, on l'a dit, la population a été avertie, en fait, simultanément ici, du début du lancement de l'attaque en Iran, avec évidemment donc instruction de se tenir à proximité des abris. Pour l'instant, la riposte iranienne n'a pas commencé. Elle peut intervenir évidemment à tout moment. Les écoles sont fermées. L'espace aérien d'Israël a été totalement fermé. Pour l'instant, on autorise encore les commerces essentiels à rester ouverts, mais on appelle la population évidemment à limiter au minimum ses déplacements. Les écoles sont fermées, les rassemblements sont interdits. Donc voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est, donc maintenant 4 heures après le début de cette frappe de Tsahal.
Alors le pays en état d'alerte maximum, Pascal, on ne sait pas donc combien de temps ça peut durer encore, peut-être encore quelques jours, ou vous pensez, qu'est-ce qu'on en dit en Israël ?
Alors, pour l'instant, il y a eu évidemment, et cette fois-ci, tout au long de la nuit, des communiqués des principaux responsables israéliens, depuis le Premier ministre jusqu'au ministre de la Défense, en passant par le chef d'état-major de Tsahal, qui se sont tous successivement, et d'ailleurs plusieurs fois déjà, adressés à la population pour expliquer donc que cette frappe contre l'Iran était différente des autres. On est en quelque sorte maintenant en guerre ouverte avec l'Iran. Oui. Ça n'a pas été dit en termes de déclaration de guerre par les responsables israéliens, mais c'est clair que c'est de cela qu'on parle. L'opération, aussi longtemps que nécessaire, a déclaré Benjamin Netanyahou, il s'agit de lever définitivement la menace de destruction sur nos têtes, donc évidemment la menace de destruction de l'Iran, c'est-à-dire donc empêcher l'Iran, cette fois-ci par la force, d'atteindre la capacité nucléaire militaire. Le chef d'état-major a parlé de point de non-retour. Nous n'avons pas le choix. Il nous fallait attaquer et il faut se préparer à la riposte de l'Iran. Israël Katz a dit que ce plan était préparé depuis des années, qu'on est donc arrivé à ce moment clé où maintenant il faut frapper la tête du serpent, selon les termes du ministre de la Défense israélienne. Donc il faut s'attendre maintenant évidemment à une riposte de l'Iran, et l'Iran l'a déjà annoncé, et une riposte disons qui peut maintenant durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Eva, pour Pascal.
Pascal, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que ce ne sont pas vraiment les sites nucléaires qui sont touchés. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie israélienne qui semble, dans un premier temps, effectivement, viser des responsables du régime iranien ?
Alors, ça n'est pas seulement des sites stratégiques et des sites nucléaires qui sont visés, même si plusieurs le sont, à Boucher, à Natanz, à Arak notamment. Donc, les sites nucléaires sont touchés, mais ils ne sont pas, en tout cas pas encore à ce stade, touchés de manière à avoir obtenu leur destruction totale. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi des bases souterraines que les chasseurs bombardiers israéliens ne peuvent pas atteindre avec les munitions dont ils disposent. Il y a des bombes perceuses de bunkers qui sont pour l'instant exclusivement dans les arsenaux de l'armée américaine. Il y a donc à la fois cette volonté donc d'abord de surprendre l'Iran, donc de toucher sa chaîne de commandement pour perturber le fonctionnement. C'est aussi d'une certaine manière un message, et d'ailleurs Benjamin Netanyahou s'est aussi adressé à la population iranienne en expliquant que ça n'était pas une guerre d'Israël contre les Iraniens, mais contre le régime de Téhéran, contre le régime des ayatollahs. Donc en deuxième ou troisième instance, il y a évidemment la possibilité que les Iraniens comprennent que pour eux c'est le moment de renverser leur régime, mais évidemment on n'en est pas là pour l'instant. C'est donc effectivement une affaire de tactique, à la fois surprendre, perturber la chaîne de commandement, essayer de limiter au maximum l'ampleur de la riposte de l'Iran, donc frappe contre ses bases de missiles balistiques, et puis aussi évidemment continuer à annihiler les défenses iranienne à l'intérieur de l'Iran pour permettre la poursuite des frappes de Tsahal. Donc une opération, on l'a dit, qui a été préparée depuis plusieurs années par Israël.
Alors aujourd'hui, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Pascal, c'est le pays, c'est Israël qui est en état d'alerte. Quel risque justement pour l'État hébreu en cas de guerre avec l'Iran? Les renseignements américains, je crois, hier ont mis justement en garde Jérusalem, estimant que l'Iran disposait de milliers de missiles balistiques capables d'atteindre justement le territoire israélien. Quel risque alors pour Israël?
Absolument, et cette menace était évidemment prise en compte par Israël, le Premier ministre l'a rappelé. Il y a évidemment un risque, on savait que cette confrontation arriverait ou risquait d'arriver, on le savait depuis des années. On y est maintenant, c'est-à-dire que, comme l'a dit Benjamin Netanyahou, il n'y a pas de guerre gratuite. Toutes les guerres ont un prix. On prépare la population à ce que les frappes iraniennes soient beaucoup plus importantes, beaucoup plus massives que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et disons, Israël est préparé à cela. Tout son système de défense multicouche est justement destiné à protéger le pays, même si on sait évidemment que ça n'est pas hermétique. Les hôpitaux ont été placés en état d'alerte, sont déjà prêts à recevoir le cas échéant des blessés, y compris dans les salles d'opération souterraines. Donc tout est prêt maintenant. On attend la riposte de l'Iran, dont on sait évidemment qu'elle est inévitable.
Pascal, évidemment, ça intervient dans un contexte particulier, hein, puisque le président Trump voulait conclure un accord avec Téhéran. Il va réunir aujourd'hui son Conseil de sécurité nationale. Alors, ça a été le flou ces derniers jours par rapport à la stratégie américaine concernant l'Iran. On a entendu il y a deux jours le chef du CENTCOM qui doit quitter son poste, Michael Kourila, qui a semblé approuver ces frappes israéliennes contre des sites nucléaires iraniens. Comment peut réagir Donald Trump et son administration?
Alors d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que là, on parle bien d'une opération lancée par Israël et Israël seulement. Donald Trump, qui a pris la parole tout à l'heure, a confirmé qu'il avait été prévenu par Israël du lancement de l'attaque, mais donc que les États-Unis n'y participaient pas, mais qu'en revanche, ils étaient prêts à défendre Israël si nécessaire, autrement dit, si et quand l'Iran ripostera. Il y a donc évidemment maintenant aussi une menace vers les États-Unis. Les responsables iraniens qui se sont exprimés ce matin ont clairement menacé non seulement Israël, mais les États-Unis de riposte. On a vu déjà depuis deux jours les Américains évacuer un certain nombre de leurs ambassades dans la région. Il y a donc maintenant évidemment aussi une alerte du côté des États-Unis, à la fois sur ses bases dans la région, donc le CENTCOM, vous l'avez rappelé, Eva et Michael Kourila. Il y a évidemment une coordination étroite entre les responsables de Tal et les responsables de l'armée américaine, mais maintenant il est clair que ça ne va pas se limiter à une confrontation entre Israël et l'Iran et que les États-Unis, qu'ils le veuillent ou non, sont maintenant entrés dans la boucle, même si on ne sait toujours pas d'ailleurs si le prochain round de négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui était prévu dimanche à Oman, aura bien lieu ou non.
Alors peut-être en une minute, Pascal, évidemment avec vous chaque matin, on fait le point de toute l'actualité en Israël. Là, édition spéciale oblige, on parle de ce qui se passe en Iran. Est-ce que ça va changer justement quelque chose sur le terrain par rapport aux opérations qui se déroulent aussi parallèlement à Gaza et au sud Liban?
C'est évidemment une mobilisation renforcée sur tous les fronts. D'abord parce que évidemment il faut s'attendre, donc on l'a dit, à une riposte de l'Iran, mais qui peut venir aussi d'Irak, qui peut venir aussi du Yémen. Il ne faut pas exclure que le Hezbollah, avec ce qu'il lui reste de force ou de capacité de fonctionnement, tente aussi une action sur le front nord. Le Hamas, en ce qui concerne l'opération de Gaza, eh bien ça continue. Donc c'est au contraire un renforcement maintenant sur l'ensemble des fronts de la guerre.
Eh bien, merci beaucoup Pascal. Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Vous restez avec nous, évidemment, tout au long de cette édition. On continuera à faire le point des derniers développements sur le terrain. Donc, l'information principale de cette matinée, on le rappelle, c'est Israël qui a frappé l'Iran, notamment des installations nucléaires, mais aussi des responsables des gardiens de la Révolution. On en parlera aussi avec Rina dans quelques instants. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'info avec Eva Soto. On vous propose juste après d'écouter le porte-parole de Tsahal, Efi Defrin, qui s'est exprimé très tôt ce matin. Restez avec nous sur Radio J.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Édition spéciale.
6h15, et oui, toute l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Israël a donc frappé l'Iran cette nuit, l'opération Lion Levant. Les frappes israéliennes sont un succès, déclare ce matin le Premier ministre Benjamin Netanyahou. En tout cas, en Israël, l'ensemble des hôpitaux sont en état d'alerte maximale, selon le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. C'est un moment décisif dans l'histoire d'Israël. De son côté, la télévision d'État iranienne confirme les élimination de l'ensemble de l'état-major militaire iranien. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a été éliminé, ainsi que deux scientifiques du programme nucléaire iranien. Les gardiens de la révolution jurent de venger la mort de leur chef. Et également ce matin, de nouvelles explosions qui ont été entendues à Téhéran. La défense aérienne a été activée. L'Agence internationale de l'énergie atomique confirme aussi que le site nucléaire iranien de Natanz a été visé.
Merci beaucoup Eva. Eva, vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Rina Bassiste. Elle est en studio en direct avec nous.
Radio J, le 6-9, l'NFR Radio.
6h16, vous pouvez évidemment nous écouter, nous regarder sur notre chaîne YouTube. Rina Bassiste, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va vous faire réagir dans un instant. Je vous propose d'abord d'écouter le porte-parole de Tsahal, Efi Defrin. Il s'est exprimé ce matin. On va le traduire en direct. Écoutez. Tsahal a lancé une frappe préventive précise et intégrée basée sur des renseignements de haute qualité dans le but de nuire au programme nucléaire iranien et en réponse à l'agression continue du régime iranien contre Israël. Des dizaines d'avions de l'armée de l'air ont récemment mené à bien cette frappe initiale qui a notamment visé des dizaines de cibles militaires dont des cibles nucléaires dans diverses régions iraniennes. La population doit obéir aux instructions du commandement du front intérieur qui seront mises à jour si nécessaire et agir de manière responsable et patiente. Tsahal et les organismes compétents sont prêts à faire face à de nombreux scénarios, en défense comme en attaque, selon les besoins. Depuis des années, l'Iran encourage directement et indirectement le terrorisme contre l'État d'Israël, finançant et dirigeant des actes terroristes par l'intermédiaire de ses mandataires dans tout le Moyen-Orient, tout en progressant vers l'arme nucléaire. Le régime iranien est le principal auteur de tous les actes terroristes commis contre l'État d'Israël depuis le début de la guerre de l'opération Épée de Fer, y compris l'armement et le financement de l'organisation terroriste du Hamas, responsable des massacres du 7 octobre. Pendant l'opération Épée de Fer, l'Iran a même attaqué directement Israël à deux reprises, tirant des centaines de missiles et de drones sur le pays. Le régime iranien a pour objectif déclaré de détruire l'État d'Israël. L'Iran, aujourd'hui, est plus proche que jamais de se doter de l'arme nucléaire. L'État d'Israël ne permettra donc pas à un régime dont l'objectif est la destruction de l'État d'Israël de posséder des armes de destruction massive. L'armée israélienne qui est prête à continuer d'intervenir si nécessaire. Voilà ce que dit donc ce matin le porte-parole de Tsahal, Efi Defrin. Alors une réaction peut-être, Rina, ce matin d'abord sur ces frappes israéliennes contre l'Iran. Est-ce qu'elles étaient prévisibles selon vous?
Bon, c'est intéressant parce que d'abord on a entendu plusieurs déclarations de président Trump justement ces derniers jours, disant qu'il n'était pas tout à fait sûr qu'il y aura un accord, ce qui d'une certaine façon a ouvert la porte pour Israël à frapper. Et il y avait, il y a 2 heures à peine aussi, cette annonce du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a dit que la décision principale était déjà prise lundi. Donc, on parle déjà d'une décision prise il y a quelques jours, pas ces dernières heures. Et d'ailleurs, on a vu que tout était préparé sur tous les niveaux, non seulement sur le niveau militaire, bien sûr, mais aussi sur le niveau de la population israélienne, parce que contrairement aux autres frappes, les Israéliens, ils ont reçu des alertes et des sirènes sur leur téléphone et ouais. partout, annonçant que la frappe est en train d'être lancée et on n'a pas vu encore de frappe du côté iranien, parce que normalement on a ces sirènes seulement quand les Iraniens commencent à lancer leurs propres missiles. Ce n'est pas encore arrivé, mais il y avait ici un travail assez conséquent, je pense, de préparation pour que la population sera au courant, qu'il n'y aura pas de panique, que tout le monde, d'un côté l'armée, l'autre côté les civils aussi, tout le monde sera préparé pour la suite.
Alors de quelle manière ça va impacter l'Iran finalement tout cela? De quelle manière effectivement l'Iran va pouvoir s'en sortir désormais? Est-ce que vraiment ce sont des frappes qui vont abîmer à long terme le régime iranien selon vous, Rina?
Bon, on a vu que pour l'instant, on parle pour l'instant de cinq vagues en fait de frappes et ça va continuer. On a l'impression pendant quelques heures, peut-être même quelques jours. Et l'armée israélienne a dit qu'ils sont en train de frapper sur plusieurs niveaux. Donc d'abord, il y a, et c'était bien dit tout à l'heure par Eva, il y a a priori une frappe qui a été lancée contre Natanz, contre un des sites principaux.
L'installation nucléaire. Oui.
Une installation nucléaire. On n'a pas encore entendu une frappe contre Fordo, qui est en fait le site apparemment le plus avancé côté technologique les sites nucléaires les plus avancés. Ça, on n'a pas encore vu, mais peut-être ça va arriver. À côté de ça, il y avait les frappes contre les responsables iraniens. Et là, on a la confirmation que plusieurs hauts responsables iraniens, les chefs de l'état-major, les chefs de cabinet, et a priori, au moins 10 scientifiques aussi nucléaires qui étaient éliminés. Khamenei, pour l'instant, il est à l'abri. Oui. Donc, on voit des frappes sur plusieurs niveaux.
Ça leur porte un coup aussi, quand même. Hein.
Voilà. Oui. Et aussi des frappes contre des installations de fabrication de missiles balistiques. Et donc tout ça, il faut attendre quelques heures pour voir à tel point ça a détruit justement la capacité d'Iran à frapper Israël dans les médias.
On verra les conséquences effectivement. Eva.
Le but affiché, Rina, c'est effectivement de protéger Israël de frappes iraniennes, notamment dues à son programme nucléaire. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres buts? Par exemple, faire tomber le régime islamique iranien, parce qu'on se doute que si Israël attaque l'Iran, c'est que l'Iran est affaibli.
Justement, une des premières déclarations faites par les autorités israéliennes était pour dire non. C'était pour dire que le but d'Israël, ce n'est pas de faire tomber le régime iranien, mais de heurter, d'éliminer toutes les capacités nucléaires de Téhéran. Et d'ailleurs, c'est intéressant.
Mais là,
parce
on voit que ce sont des responsables du régime aussi qui sont visés. D'où ma question.
Oui, effectivement. Donc là, la question se pose. Là, je suis d'accord. Mais Khamenei, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, il est à l'abri. Donc, on ne sait pas s'il y avait est-ce que ça a échoué? Est-ce qu'Israël a vraiment essayé d'éliminer? Ou il y avait peut-être une décision que pour l'instant, on n'y touche pas? C'est une question qui se pose. On peut s'imaginer que ça, c'était en consultation avec le gouvernement Trump que. On se rappelle qu'ils sont toujours en train de négocier avec Téhéran et cet accord nucléaire.
Justement, c'est effectivement du renseignement qui permet aussi de viser les responsables comme le chef des gardiens de la révolution, etc. Des renseignements du Mossad qui a travaillé en amont puisque l'opération a été préparée bien à l'avance. Alors, est-ce que on peut se projeter dans le fait que peut-être il y a aussi des appuis à l'intérieur de l'Iran pour le faire tomber le régime en même temps que ses frappes ou en soutien à ses frappes? Est-ce qu'il peut y avoir des contacts comme ça? Est-ce que ça peut exister?
Bon, je crois que c'est assez clair, même si personne ne va le dire pour l'instant de façon ouverte, qu'il y avait des renseignements au sein de l'Iran. Et on a vu ça et dans des frappes avec Ismaïl Haniyeh, par exemple.
Ça veut
et
dire que ça,
de Hamas, où il y avait
ça désorganise aussi à l'intérieur, puisque à l'intérieur, il y a probablement eu des informations qui ont été données à Israël. Donc, il y a aussi cette course à l'intérieur du régime pour savoir qui a donné les informations.
On peut s'imaginer, justement, et on a vu ce processus avec Ismaïl Haniyeh, et c'est assez extraordinaire, je trouve qu'avec il y avait quand même un purge avec au moment où il était éliminé, donc on aurait pu penser que ça y est, ils ont nettoyé leur propre camp pour qu'il n'y aura plus des gens suspectés de collaborer d'une certaine façon avec Israël. Manifestement, c'était pas fait comme il le fallait. Mais là, je crois qu'il faudra attendre quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois pour avoir les détails jusqu'à quel point Israël est vraiment infiltré dans la machine de renseignement iranienne.
Rina Bassiste, on se disait ça ces derniers jours avec Ilana sur le ton de la plaisanterie, ça va être la troisième guerre mondiale. Est-ce que c'est la troisième guerre mondiale ?
Mais là, il y a sûrement Israël est en guerre active avec l'Iran. Et cette frappe-là, ça ressemble en rien de précédentes frappes qui étaient extrêmement précises et extrêmement contenu d'une certaine façon avec, à l'époque, on a bien vu qu'Israël a anticipé une certaine réaction iranienne qui aussi n'a pas dépassé un certain cadre. Là, tous ces cadres sont brisés, on parle de quelque chose extrêmement plus large. Les Israéliens parlent de jours et des frappes, pas justement ce qu'on a vu depuis 3 heures ce matin. C'est ce qu'ils ont aussi averti la population israélienne, sachant aussi que les Iraniens, ça va leur prendre du temps, si vous voulez, pour préparer leur contre-attaque.
Alors c'est intéressant aussi de parler des Iraniens, de la population iranienne, parce que Pascal l'a dit ce matin, Benjamin Netanyahou l'a affirmé, ce n'est pas une guerre contre les Iraniens, c'est vraiment une guerre contre la République islamique d'Iran, les gardiens de la révolution. Ça sera intéressant aussi de savoir, là, dans les prochaines heures, les prochains jours, comment la population iranienne va réagir. Est-ce qu'elle peut d'ailleurs en profiter un petit peu de ce chaos pour se soulever, se révolter ?
Effectivement, Ilana, je pense que c'est pas par hasard que dans son message télévisé, Benjamin Netanyahou s'est adressé à un certain moment directement aux Iraniens pour préciser ce point. C'est quelque chose qu'il a fait déjà dans le passé, et dire encore aux Iraniens, on n'est pas contre vous, on aimerait, voilà, Israël n'a rien contre le peuple iranien, on est contre le régime des ayatollahs, on est contre le programme nucléaire. Espérons peut-être que ces frappes-là, même si le but immédiat n'est pas faire tomber le régime iranien, que ça va
puisse,
déstabiliser
ça.
Justement, voilà. Que ça va affaiblir
et peut-être guider les Iraniens à réagir directement sur place.
Effectivement.
Aussi.
Rina, on parle effectivement en Israël de l'ensemble des hôpitaux en état d'alerte maximale. Effectivement, les Israéliens qui ont été prévenus. On sait que l'Iran a des missiles balistiques, mais évidemment, la question qui se pose, c'est s'il y a des missiles balistiques avec des têtes nucléaires, est-ce que au moment des interceptions, ça peut être dangereux pour les Israéliens?
Justement, pourquoi en fait Israël a décidé de frapper maintenant? Parce que quand on parle du programme nucléaire, le programme nucléaire est divisé en trois. Il y a trois composants. Il y a bien sûr l'enrichissement de l'uranium. Et là, on sait que les Iraniens sont extrêmement avancés. On a il faut porter. Si on a une bombe, il faut la porter pour les lancer. Et là, on sait que les Iraniens, ils ont des missiles balistiques qui peuvent atteindre Israël, parce qu'on les a vus déjà en train d'utiliser. Mais la question est fabriquer et la bombe ou la tête nucléaire même. Et là, ça fait en fait des années que, et en fait, Israël n'a pas réussi à apporter des preuves, et comme si vraiment l'Iran a pris la décision de commencer à développer et les bombes même. Il y a même une fatwa qui était, il y a quelques années, qui était publiée par l'ayatollah Khamenei, disant que pour l'instant, la décision n'était pas prise. Et là, ces derniers jours, apparemment, il y avait de renseignements côté israélien, comme si peut-être il y avait un changement dans cette politique iranienne, qu'il y avait peut-être une décision iranienne justement de commencer à développer une bombe ou une tête nucléaire qui peut être installée sur des missiles. Et là, a priori, c'est ça qui a déclenché cette décision de Benjamin Netanyahu de lancer cette attaque préemptive.
Merci beaucoup, Rina Bassis. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous sommes en édition spéciale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Radio J.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, c'est Shirelle. Je viens le 23 juin au Palais des Glaces pour chanter Yen Tel Enmi, un spectacle qui parle de femmes, qui parle d'Israël, qui parle d'identité. Et j'espère que vous viendrez nombreux pour l'association Netzar et Tzedek qui aide les enfants en Israël.
Réservation netzar1948.com
netzah1948.com et 0603 52 88 88. Shirelle, sur la scène du Palais des Glaces le 23 juin.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Édition spéciale. Radio J.
Il est 6h30.
Le 6-9. Ilana Ferradian.
Et oui, 6h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Merci de votre écoute ce vendredi 13 juin 2025, édition spéciale. Après ces frappes israéliennes en Iran, cette nuit, on en parle sur Radio J. Effectivement, 616e jour de guerre en Israël et donc ces frappes, ces attaques d'Israël en Iran, on en parle. Le journal avec Eva Soto. Bonjour Eva.
À tous.
Israël a donc frappé l'Iran cette nuit. C'est l'opération Lion Levant qui a débuté.
Et oui, et de sources israéliennes à Al-Arabiya, Israël a mené environ 300 frappes en Iran. L'ensemble des hôpitaux en Israël est en état d'alerte maximale. Selon le ministre israélien de la Défense, c'est un moment décisif dans l'histoire de l'État d'Israël. De son côté, ce matin, Benjamin Netanyahou a pris la parole dans une déclaration vidéo pour dire que l'opération était un succès. Nous sommes à un tournant décisif, a quant à lui affirmé Israël Katz, donc le ministre de la Défense. Si nous le manquons, nous n'aurons aucun moyen d'empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires qui mettront en danger notre propre existence, a-t-il dit. Eyal Zamir, le chef d'état-major de Tzahal, a lui aussi pris la parole.
Nous sommes passés à l'offensive car le moment est venu. Nous avons atteint le point de non-retour. Nous ne devons pas attendre une autre occasion pour agir. Nous n'avons pas le choix. L'histoire, qu'elle soit lointaine ou récente, nous a appris que face aux ambitions de destruction, nous ne devons pas baisser les bras. Et c'est sur cette base que nous luttons pour préserver notre existence. La liberté a été donnée à ceux qui sont prêts à se battre pour elle. Je ne vous promets pas que des succès. Le régime iranien tentera de nous contre-attaquer. Je vous préviens, quiconque tentera de nous défier en payera le prix fort. Nous nous battons ensemble. Un seul objectif se dresse devant nous, offrir un avenir plus sûr à l'État d'Israël et à ses citoyens. Avec la foi, ensemble et dans un effort commun, nous vaincrons.
Et Eyal Zamir, le chef d'état-major de Tzahal, et toutes les ambassades israéliennes à travers le monde ont été placées en état d'alerte maximale, notamment l'ambassade d'Israël à Washington et le consulat à New York.
La télévision iranienne confirme les éliminations d'ailleurs de l'ensemble de l'état-major militaire iranien.
Et même du chef d'état-major iranien, Mohamed Bagheri, qui a donc été tué selon la télévision d'état iranienne. C'est également le cas du chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, ainsi que de deux scientifiques du programme nucléaire iranien. Les gardiens de la révolution jurent de venger la mort de leur chef. Ces attaques ne resteront pas sans réponse et Israël doit s'attendre à une vengeance sévère et regrettable, a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a lui menacé Israël d'un sort amer et douloureux après ces frappes. Et selon le porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes, l'ennemi sioniste, ce sont ces mots, d'euros. Et les États-Unis paieront un prix très lourd. L'Iran réagira avec force contre le régime sioniste, a-t-il encore affirmé.
Ce matin, de nouvelles explosions ont été entendues donc à Téhéran. La défense aérienne a été activée, Eva.
Oui, l'Agence internationale de l'énergie atomique confirme d'ailleurs ce matin que le site nucléaire de Natanz a été visé. Selon la télévision d'État, trois sites militaires dans la province d'Azerbaïdjan de l'Est aussi. Le haut responsable militaire a ajouté que des frappes israéliennes avaient touché des zones civiles, des faits désormais confirmés. En tout cas, selon lui, il a déclaré que l'attaque des sionistes, je le cite encore, contre des zones civiles aurait été vérifiée.
Donald Trump va réunir aujourd'hui par ailleurs son conseil de sécurité nationale.
Oui, et ce matin, l'Iran affirme tenir les États-Unis pour responsable des conséquences des attaques israéliennes. L'Iran a déclaré que les États-Unis seraient donc responsables. Les actions agressives du régime sioniste, ce sont les termes de l'Iran contre l'Iran, n'auraient pas pu être menées sans la coordination et la permission des États-Unis, a déclaré le ministère des Affaires étrangères iranien. Le président américain, lui, avait publiquement exhorté Israël à ne pas effectuer ces frappes quelques heures avant leur déroulement. Il va réunir son Conseil de sécurité nationale à 11h, heure locale, 17h à Paris. Ces frappes d'Israël interviennent dans un contexte de négociation entre les États-Unis et le régime islamique iranien sur son programme nucléaire. Donald Trump comptait conclure un accord avec Téhéran, mais Washington affirme ce matin que les États-Unis défendront Israël en cas d'attaque de l'Iran.
Merci beaucoup Eva Soto. Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé par ailleurs il y a une trentaine de minutes et qui l'a dit, nous ne subirons pas, nous refusons d'être victimes d'une Shoah nucléaire. On essaye de vous faire écouter ce son tout à l'heure sur Radio J. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous ce matin. Effectivement, prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 6h45 et de nombreux invités à suivre. Aussi, nous serons avec Stéphane Juffa de la MENA à partir de 6h40. À partir de 6h45, Sébastien Lévy, également notre correspondant aux États-Unis à New York, qui nous dira aussi un petit peu ce qui se passe du côté américain, les dernières déclarations de Donald Trump. Mais d'abord, c'est le Dvar Torah du jour. Et oui, on n'oublie pas Shabbat. Ce soir, rentrée à Paris 21h37, sortie demain 23h02. Et nous retrouvons Mévora Zerbi pour le Dvar Torah. Bonjour Rav.
Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. La paracha Be'alotra, durant ce Shabbat, est particulièrement riche. Et on pourrait dire que c'est un Shabbat unique qui ressemble un peu à Simchat Torah parce qu'on a trois livres. Trois livres en un. C'est-à-dire dans le même Sefer Torah, en fait, on va voir dans le Sefer Torah une anomalie remarquable, qui est unique, c'est que dans l'encadrement de 85 lettres, des versets qui parlent du déplacement du Aron HaKodesh, de l'Arche Sainte, on a deux Nouns à l'envers. La lettre Noun, qui s'écrit d'une certaine façon, et ben elle écrit à l'envers de son écriture. Et c'est comme une sorte de parenthèse. Alors on dit pourquoi, on développera cet après-midi un peu plus en détail le pourquoi, mais une des raisons c'est pour couper entre les pouranout, couper entre les catastrophes qui sont décrites dans cette paracha. Oui, on parle de rébellion, d'envie, etc. Et donc pour faire une sorte de respiration au milieu de toutes ces catastrophes, eh bien on a ces deux versets mais qui ne sont pas à leur place. Toutefois, on peut se poser la question, mais quelle est, avant ces deux versets, la catastrophe? En effet, chapitre 10, verset 33, on dit, ils sont Oumé Arachem, ils sont partis de la montagne de Dieu, ils sont restés pendant un peu moins d'un an au Mont Sinaï, et là ils s'en vont. Ben, ils s'en vont, c'est, elle est où la catastrophe? Dans le traité Shabbat, page 117, on nous dit, Sarou Mahare Hachem. Ils se sont éloignés d'Hachem. C'est-à-dire, quand on dit Veïs Ouméar Hachem, ils sont partis de la montagne de Dieu. En fait, on va dire Ketinok, c'est comme ça que l'explique Maïm Narmanide, Ketinok Aborer Mibet Asefer, comme un enfant qui s'enfuit quelque part de l'école, qui est tout content de partir de l'école. Et en fait, les ministres d'Israël sont partis avec empressement du Mont Sinaï, parce qu'ils ont dit, ils ont eu peur qu'on leur donne encore de la Torah, des mitzvot. Et ça, c'est une catastrophe. Quand on s'en va parce qu'on veut pas écouter un cours, on s'en va parce qu'on veut pas écouter la Torah, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et là, Israël, eh bien, n'avait pas compris quelque chose de très important. On lui dit à chaque fois qu'on doit faire un kaddish, Ratsa, Kadosh, Baruch Hu, les Akot, et Israël, Fichach, Irbalahem, Toro, Mitzvot. Dieu a voulu donner du srout, du mérite aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il leur a multiplié la Torah et les Mitzvot. Les sujets de Torah, les nombreuses Mitzvot sont là pour nous donner un mérite. Et Kadosh Baruch Hu nous a donné un foisonnement de ces Mitzvot pour notre bien, pour nous purifier, pour nous élever, pour nous raffiner, les Akot d'Israël, devenir Zahar. Et là, les Israéliens n'avaient pas compris. Et ça, c'est une catastrophe. Partir de la montagne de Dieu en joie pour ne pas écouter encore des paroles de la Hachem, c'est une véritable catastrophe qui justifie qu'on ait une respiration avec des nounas en verre. Bon, on tranque ici, on est entre les catastrophes. Mais en comprenant bien que quand on s'éloigne de la montagne de Dieu, avec joie, parce qu'il fallait partir, mais il fallait rester connecté. Il fallait rester conscient de ce lien avec la Torah, l'étude de la Torah et les Mitzvot. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h30, 10h32 très exactement, pour comprendre notre réflexion dans le lien entre le candélabre, les lumières de Shabbat, la manne et les chalot de Shabbat, avec donc les lumières de Shabbat, les chalot de Shabbat à travers notre paracha. Excellente journée, Shabbat Shalom, Git Shabbat, Shabbat Shalom, Omer Vorach.
Du rabbin Mevorah Zerbib, c'est tous les matins sur Radio J. Alors je vous dis à lundi.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 9h, au micro de Frédéric Aziza.
Ce dimanche, je recevrai Philippe Val, l'ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo, pour son livre « La gauche et l'antisémitisme » publié aux éditions de l'Observatoire.
Les enfants de la République, c'est tous les dimanches à 9h, uniquement sur Radio J.
Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ecuj. Facile, allodon.fr/ecuj.
Radio J, Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian, édition spéciale.
Merci de nous rejoindre ce matin et nous sommes à présent en direct pour cette édition spéciale avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane.
Bonjour Ilana, bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J.
Merci d'être avec nous. Alors j'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit puisque vous avez été réveillé à 3h du matin. Tout le pays, hein, Israël a été réveillé à 3h du matin. Ça y est, Israël a frappé l'Iran. On en parle depuis des mois, des années même, et ça y est, le jour semble arriver. Stéphane, vous m'avez dit en off, c'était une bonne nouvelle justement. Quel est l'objectif principal de cette offensive ?
On peut pas être plus simple. Il ne peut pas être plus simple. L'objectif, c'est de se débarrasser de la bombe atomique iranienne pour nous, pour Israël, pour la région, également pour vous, pour l'Europe et pour les États-Unis. Un monde avec un Iran nucléarisé n'était pas supportable.
Alors, on l'a vu, hein, Israël a frappé à la fois des installations nucléaires, mais aussi a procédé à l'élimination de plusieurs responsables iraniens. Et ce n'est pas terminé. Ça va continuer encore peut-être pendant peut-être plusieurs jours, hein, Stéphane.
On est à la sixième frappe maintenant. Donc, on a éliminé le chef de l'armée iranienne, le chef des gardiens de la révolution, le chef du programme nucléaire iranien, et surtout on a éliminé beaucoup de missiles balistiques, les dépôts de missiles balistiques. On est encore en train de le faire, donc dans l'optique d'une riposte iranienne, c'est très important. Et Ilana, et auditeurs téléspectateurs, des dizaines des dizaines de sites d'installation du projet de bombe atomique iranienne, et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que le site principal de construction, d'enrichissement plus précisément d'uranium du projet de bombe atomique, c'est Natanz. Et Natanz, de l'aveu même, et je l'ai entendu il y a 5 minutes de la télévision officielle iranienne, est détruit, anéanti. Et ça nous promet quelques années de
Alors justement, qu'est-ce que ça représente, ce site Natanz, justement, et à quel point ça va impacter les gardiens de la Révolution?
Alors il y a Natanz et Fordo qui sont des montagnes qui ont été creusées, c'est des sortes de volcans et qui sont énormes, et dedans on fait de l'enrichissement d'uranium à 90%. 90% c'est le taux nécessaire pour fabriquer des bombes atomiques. On savait pas s'il était possible de détruire des montagnes. Là ce qu'on a fait ce matin, c'est détruire des montagnes, et il semble qu'on a réussi, puisque de l'aveu même des officiels iraniens, ces sites sont détruits, et c'est à la fois une importante victoire militaire et puis un exploit technologique incroyable. Ça s'est jamais fait de détruire 15 mètres de rochers additionnés, augmentés de béton armé de type militaire, et il semble qu'Israël a réussi à le faire. On en reparlera beaucoup dans les mois et les années à venir.
Alors peut-être juste une dernière question très rapidement, Stéphane, quel risque aujourd'hui pour Israël, justement, après ces frappes? Est-ce que vous craignez, vous, que le pays se retrouve confronté à l'envoi de centaines de missiles balistiques iraniens aujourd'hui?
On est confronté, Ilana. Je serais très étonné si dans les 2 heures, il n'y avait pas une riposte avec beaucoup de ces missiles balistiques. La seule interrogation, c'est est-ce que par hasard, ou pas par hasard, mais au-delà de ce qu'on peut savoir ici de notre rédaction à Metula, Tsahal aurait réussi à détruire suffisamment de ces missiles pour faire avorter cette riposte. Si c'est pas le cas, Israël aura à subir cette riposte, mais dit froidement, ça vaut la peine. Une riposte de ce genre qu'on a déjà connue pour éliminer la menace de bombes atomiques sur Israël et sur le monde, ça vaut largement la peine.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Stéphane Juffa d'avoir été avec nous, d'avoir réagi ce matin sur Radio J. Bon courage pour cette journée qui s'annonce très intense, et bon courage à tous les Israéliens aussi qui sont confrontés à l'incertitude aujourd'hui, finalement. Merci beaucoup Stéphane, et à très bientôt.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
6h46, toute l'actu avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Israël a frappé l'Iran cette nuit. L'opération Lion-Levant a donc débuté. En Israël même, l'ensemble des hôpitaux sont en état d'alerte. Selon le ministre israélien de la Défense, c'est un moment décisif dans l'histoire de l'État d'Israël. Nous sommes à un tournant décisif. Si nous le manquons, nous n'aurons aucun moyen d'empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires, a déclaré Israël. De son côté, Benjamin Netanyahou a pris la parole dans une déclaration vidéo pour dire que l'opération était un succès. En tout cas, la télévision d'État iranienne confirme les éliminations de l'ensemble de l'état-major militaire iranien, du chef d'état-major même et du chef des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution qui jurent de venger la mort de leur chef dans cette attaque. Et puis ce matin, il y a eu de nouvelles explosions entendues à Téhéran, et la défense aérienne a été activée. On sait que le site nucléaire de Natanz a été visé et peut-être même détruit.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, vous restez avec nous sur Radio J. Toute l'actualité à suivre. Le porte-parole de Tsahal qui fera une déclaration aux médias là dans quelques instants, dans quelques secondes. On reste évidemment en direct et on suit ces développements sur Radio J jusqu'à 9h.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Édition spéciale.
Et oui, édition spéciale à ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran. Israël qui estime que plus de 10 scientifiques nucléaires ont été éliminés en Iran. Israël qui a mené plus de 300 frappes, justement. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ilana.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Effectivement, c'est important de vous entendre, vous qui êtes américain, justement. Alors, vous l'avez vu, hein, Donald Trump s'est exprimé. Il va réunir aujourd'hui son Conseil de sécurité nationale. Il semble qu'il ait donné, en tout cas, à moitié, peut-être, son accord à Israël pour frapper l'Iran.
Bah, il semble qu'on peut sans doute supposer qu'Israël n'aurait pas fait cette opération sans au moins un feu orange, ou sans doute un feu entre le vert et le orange de la part de Trump, en fait, pour faire cette opération. Voilà, clairement, enfin, je pense pas qu'Israël aurait pris un risque pareil de se mettre à dos le gouvernement Trump, pour, en fait, une frappe comme ça, dos et contre lui. Donc, clairement, ils ont été informés. Ça, on le sait. De toute façon, ça fait quelques jours que le personnel non essentiel des ambassades dans la région a été évacué. Donc, clairement, quelque chose se tramait. Ce qui est intéressant, évidemment, dans toute cette histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de messages contradictoires. La vraie question qui va se poser, sans doute, dans les prochains jours, c'est à quel point les Américains étaient au courant et à quel point les propos de Witkoff étaient un moyen d'enfumer un petit peu les Iraniens, de les calmer, de dire non, il va rien se passer jusqu'à cette négociation qui a lieu en ce moment.
Oui.
Ou alors est-ce que les Américains étaient sincères et qu'ils ne savaient pas exactement le timing précis de l'opération israélienne. Je pense que ce sera intéressant de voir le degré de coordination entre Israël et les États-Unis.
Mais effectivement, c'est intéressant puisque si Washington a évacué le personnel non essentiel de son ambassade à Bagdad, notamment d'autres pays du Golfe, Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, hier a indiqué qu'il était peu probable qu'Israël attaque justement l'Iran. C'était donc un moyen d'enfumer, comme vous dites, un petit peu le régime iranien.
C'est la vraie question. Est-ce que c'est un moyen notamment pour endormir leur méfiance? Enfin, il y a quand même eu des éliminations au plus haut niveau des Iraniens, vers le chef des gardiens de la Révolution, le chef d'état-major. Donc, c'est clairement des gens qui n'étaient pas à l'abri lorsque cette attaque a eu lieu. On peut penser donc qu'ils se pensaient encore à l'abri dans les prochains jours, au moins jusqu'à dimanche, puisqu'on va au round de négociation. Et c'est peut-être ça qui explique la colère des Iraniens qui disent aujourd'hui à président Trump, vous êtes comptable de cette opération parce que d'une certaine façon, vous avez joué le jeu des Israéliens pour nous endormir un petit peu, nous enfumer. Je pense que c'est ça les messages. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est le propos de Marco Rubio ce matin qui a dit, je cite, les États-Unis ne sont pas involved, c'est-à-dire ne sont pas impliqués dans cette opération, et c'est une attaque unilatérale. Donc il y a sans doute une volonté de la part des autorités diplomatiques américaines de prendre une certaine distance par rapport à cette opération, en disant évidemment quand même les États-Unis seront de toute façon solidaires d'Israël quoi qu'il en soit.
Une certaine distance parce que oui, alors que ces frappes interviennent, alors que le sixième cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran est prévu pour dimanche à Oman. Alors est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est toujours prévu? Est-ce qu'on a des infos là-dessus, Sébastien?
Écoutez, Donald Trump vient de s'exprimer sur Fox News et il a dit que lui, en fait, entendait poursuivre ce cycle de négociations. Donc, après avoir reconnu qu'effectivement, il avait été informé de cette frappe et qu'il était au courant, mais il estimait que ça ne remet pas en cause les négociations. Ça paraît quand même assez compliqué. Maintenant, il se passe peut-être des choses dans les coulisses. Et encore une fois, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour savoir, mais il y a clairement encore une volonté de la part de Trump et de Rubio de dire voilà, pour nous ça ne change pas grand chose, mais d'un autre côté les Iraniens peuvent évidemment voir leur confiance dans la parole américaine un petit peu ébranlée en disant on ne peut pas vous faire confiance puisque vous êtes coordonnés avec les Israéliens. Donc en ce sens, ce qui va se passer je pense dans les prochaines heures va être extrêmement important. C'est peut-être aussi un moyen pour les Américains d'envoyer un message aux Iraniens disant si jamais vous faites des représailles, ne les faites pas trop fortes, puisque nous comptons éventuellement garder ce canal de négociation ouvert. Donc c'est peut-être un moyen aussi de mesurer un petit peu, de modérer la riposte iranienne. C'est aussi peut-être ça qui se joue dans les prochaines heures.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy. Merci d'avoir réagi ce matin sur Radio J. On vous retrouve évidemment lundi matin avec toujours autant de plaisir à 6h20, heure française. Et on aura l'occasion d'ici ce week-end d'avoir d'autres infos, d'autres développements. On y reviendra avec vous Sébastien. Merci beaucoup.
Le 6-9, Radio J.
Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Et tout de suite, c'est Chaim Nissenbaum. Et oui, parce que dans cette actualité, on n'oublie pas évidemment les horaires du Shabbat. Entrée à Paris ce soir, 21h37. On va pouvoir se détendre en mangeant peut-être un bon petit couscous. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, Eva, ce soir?
Salade.
Ah, bah.
Régime, salade.
J'irai pas manger chez vous. Sortie à 23h02. Demain soir, on lira la paracha Bechalotecha. Et tout de suite, c'est Chaim Nissenbaum. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. Le Shabbat, c'est le jour où il y a la lecture publique de la Torah, de toute la paracha, la portion hebdomadaire. On a pu remarquer, bien sûr, que pendant cette lecture, trois personnes sont toujours présentes sur l'estrade où on lit la Torah. Bien, c'est l'occasion de se demander pourquoi. En effet, pourquoi trois personnes? C'est en général le président ou son trésorier. Et puis, il y a celui qui est appelé à dire les bénédictions lui-même. Et il y a bien sûr le lecteur. Alors, pourquoi cela? A priori, cela semble être une simple organisation. Eh bien, cela va beaucoup plus loin. L'un de nos grands commentateurs, le Levouche, éclaire cette cérémonie d'une lumière particulière. Il enseigne qu'ici se retrouvent en symbole trois personnages qui sont finalement les clés du destin de notre peuple. Dieu, oui, lui-même, Moïse et le peuple juif. Où les retrouve-t-on? On a dit tout à l'heure que sur l'estrade se trouve un responsable de la synagogue qui appelle à monter à la Torah. N'est-ce pas là le symbole de Dieu qui appelle à respecter sa Torah? À ses côtés se tient le lecteur. Il représente Moïse, intermédiaire obligatoire, nécessaire dans la transmission de la Torah. Et le troisième, celui qu'on appelle pour prononcer les bénédictions, il incarne le peuple juif, appelé lui aussi à recevoir la Torah au Mont Sinaï. On le voit, nous sommes loin d'une simple organisation administrative. C'est notre peuple qui est ici en jeu, comme dans chaque acte de notre vie. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Raïm. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h05.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À tout à l'heure.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Édition spéciale.
Merci de votre fidélité. C'est le titre principal de l'actu ce matin. Les frappes israéliennes en Iran. Plus de 300 frappes menées effectivement contre les installations nucléaires iraniennes, contre également des responsables iraniens. Israël qui estime que plus de 10 scientifiques nucléaires ont été éliminés en Iran. Dans quelques instants, on va retrouver Rina Bassis, journaliste israélienne. Rina, d'abord on écoute Benjamin Netanyahu qui s'est exprimé ce matin, le premier ministre israélien.
In recent years,
ces dernières années, l'Iran a produit assez d'uranium enrichi pour fabriquer 9 bombes atomiques. 9. Ces derniers mois, l'Iran a passé des étapes jamais franchies auparavant. Des étapes pour militariser cet uranium enrichi. Si nous ne les arrêtons pas, l'Iran serait capable de développer une arme nucléaire dans un très court laps de temps. Ça pourrait être dans un an, comme dans quelques mois. C'est un vrai danger identifié pour la survie d'Israël. Il y a 80 ans, les Juifs étaient victimes de la Shoah orchestrée par le régime nazi. Aujourd'hui, l'État hébreu refuse d'être victime d'une Shoah nucléaire orchestrée par le régime iranien.
Benjamin Netanyahou, vous l'entendiez, le Premier ministre israélien, nous ne voulons pas être victimes d'une Shoah nucléaire. Votre réaction, Rina Bassis, ce matin, suite à ces propos?
Oui, c'est pas la première fois que le premier ministre Benjamin Netanyahu utilise ce genre de thèmes. En fait, cette menace iranienne nucléaire, et c'était toujours son sujet phare depuis des années. Et il a toujours associé ça avec un avertissement, comme si la menace nucléaire, ça va représenter une deuxième choix pour Israël. Là, on est 19 mois après le 7 octobre, donc là aussi on a vu l'utilisation de Netanyahu et d'autres responsables israéliens de même terme, mais c'est aussi une façon pour démontrer en fait la gravité des choses, que la menace est vraiment réelle, que c'est pas juste ce qu'on a connu et avant de ce programme nucléaire iranien, mais que Téhéran a vraiment décidé de passer peut-être une certaine étape vers le développement d'une bombe, non seulement des capacités nucléaires.
Alors, il y a eu des réactions hein, ce matin. L'ONU, évidemment, qui a condamné le secrétaire général de l'ONU, qui a condamné toute escalade militaire au Moyen-Orient, qui s'est dit préoccupé. Et puis là, il y a quelques minutes, l'Arabie Saoudite. Alors, c'est intéressant aussi de prendre la température du côté des pays qui entourent Israël, l'Arabie Saoudite, visiblement, qui n'est pas du côté d'Israël aujourd'hui. Hein.
Oui, tout à fait. L'Arabie Saoudite, en fait, est le premier pays arabe à réagir de telle façon. Ils ont même utilisé les mots « sœurs » en décrivant l'Iran, une attaque sur notre pays sœur et l'Iran, c'est un,
pays
c'est
un terme,
voilà, au pays frère, pardonnez-moi les Français, mais c'est un terme que les Saoudiens, bien sûr, n'ont pas utilisé avant parce que on connaît l'hostilité entre ces deux pays ces dernières années. Est-ce qu'il s'agit d'une façon pour les Saoudiens de dire regardez, on n'est pas les amis des Israéliens, en tout cas pas tout de suite, dans les contextes actuels, pas dans les contextes de la guerre à Gaza. Et il est fort possible que derrière cette façade d'une condamnation extrêmement forte, extrêmement publique, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Peut-être il y a d'autres paroles qui se passent entre Riyad et Washington, entre Riyad, Washington et Jérusalem. On a vu déjà ce genre de choses dans le passé. Et effectivement, l'Arabie Saoudite ne veut pas se montrer aux côtés d'Israël.
Alors, plus de 100 avions ont été par ailleurs dirigés contre le territoire israélien, selon le porte-parole de Tzal. Il vient de le dire, c'est l'Iran donc qui a commencé à préparer sa contre-offensive. Très rapidement, en une minute, Rina, les conséquences sur le trafic aérien, je crois qu'il y a des choses à dire là-dessus. Hein.
Oui, d'abord, en Israël, bien sûr, Israël a fermé très rapidement son espace aérien, donc pas de vols arrivants, pas de vols de départ. En fait, la plupart des vols qui étaient en route, qui étaient déjà dans la région, étaient détournés vers Chypre. Il y a effectivement des milliers d'Israéliens qui sont coincés maintenant un peu partout dans le monde. Il n'y aura pas de vols, en tout cas pas dans les prochaines heures, peut-être pas, même pas dans les prochains jours vers Israël.
Eh bien, merci beaucoup, Rina Bassiste. Merci d'avoir réagi ce matin sur Radio J. Vous restez avec nous. On va continuer à suivre, évidemment, tous les développements. L'Iran, apparemment, qui a commencé donc à contre-attaquer. Plus de 100 avions iraniens qui se dirigent vers le territoire israélien. Évidemment, des efforts sont en cours pour intercepter les menaces. On en parle tout de suite dans le journal de Kalita.